Donc, je vais commencer par faire l'appel. Yann Lorcy.
Présent.
Jacques Perrand donc, est absent et a donné pouvoir à Alexandra Leni. Stéphanie Guégan. Soizic Perrault. François-Denis Mouaou. Michel Jarnigon. Laurence Kersuzan est absente, a donné pouvoir à Christophe Belair. Alexandra Leni. Christophe Belair. Madeleine Jouandet est absente aussi et a donné pouvoir à Emmanuel Le Brigand. Annie Guillemot. Claudine Roth. Philippe Amourette, absent, a donné pouvoir à Yann Lorcy. Marie-Vonne Le Tutour vient de me laisser un message. Elle avait une urgence, donc elle aura du retard et espère arriver pendant le conseil municipal. Sylvie Le Pleu. Emmanuel Le Brigand. Michel Guillemot, Alain Pierre, Véronique Le Bourgeois est absente, a donné pouvoir à Hervé Gestin, Eddy Renault, je n'ai pas de nouvelles, donc Hervé Gestin, Georges-Yves Guillot, Chantal Gastineau, Émilie Cramet, Paul Le Guernic, Jean-Pierre Dupont, Loïc Burban, Laurence Laurence, Elisabeth Junot-Pedrono, Christophe Marchand, Éric Séguier et Marie-Madeleine Doré-Lucas s'est aussi excusée. Bien, je vous remercie. La feuille d'émargement va passer. Donc, je propose de désigner comment un secrétaire de séance. Alors, il est tradition que ce soit le plus jeune, donc Paul, c'était Émilie auparavant. Alors, secrétaire de séance, donc Paul. Et puis, ben voilà, je vous propose donc, bon, l'objet de cette séance était principalement le pôle médical, hein. Nous avons retardé d'une semaine parce que nous étions en attente de documents par rapport à la date qui vous avait été proposée lors de notre dernier conseil municipal. Mais nous avons ajouté deux ou trois autres délibérations qui nous permettent de faire avancer les dossiers, sachant que la première, c'était un oubli sur le dernier conseil municipal. Donc voilà, donc je vous propose de prendre tout de suite l'ordre du jour et je donne la parole tout de suite à Michel Jarnigon pour la première délibération.
Alors bonsoir à tous. C'est simplement une subvention qu'on passe en général au mois de juin et que on avait oublié, c'était pour le 14 juillet 2017. C'est pas, on n'anticipe pas sur 2018. Donc je vous donne la délibération. L'association La Pétanque Pontivienne a organisé des animations en après-midi en soirée le 14 juillet dernier. Nous vous proposons de verser une subvention de 950 euros à l'association La Pétanque Pontivienne pour la mise en place de toutes ces animations.
Bien, avez-vous des questions? C'est une délibération annuelle, en fait, qui aurait dû être passée lors du dernier conseil municipal. Pas de questions, donc je vous la soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc, délibération adoptée. Merci. Nous allons pouvoir régulariser vis-à-vis de l'association. Nous avions ensuite la commission des affaires générales, tranquillité publique, sécurité, circulation, et je donne la parole donc à Christophe Belair.
Merci, Madame la Maire. Donc, compte rendu de la commission Affaires générales, tranquillité publique, sécurité et circulation, il y a un compte rendu de la réunion qui s'est déroulée le 19 octobre. Avec à l'issue de ce compte rendu, un projet de délibération et un document annexé concernant le déplacement, en fin de compte, du monument aux morts devant l'église Ostival. Donc, grand point, la dépénalisation du stationnement payant. Donc, on va avoir un remplacement des eurodateurs. Actuellement, il y en a 15. Ils seront remplacés fin 2017 par 13 appareils, 9 pour la première tranche et 4 pour la tranche optionnelle qu'il est souhaitable d'entreprendre en même temps. La société qui a été retenue, c'est la société IEM SARL de Saint-Julien-en-Genevois. Le montant du marché s'élève à 57 590,40 euros pour 9 appareils, plus 26 614,40 euros pour 4 appareils, soit un total de 82 204 euros TTC. Donc, à compter du 1er janvier 2018, le non-paiement du stationnement ne fera plus partie de la liste des infractions du code de la route. Il sera remplacé par une taxe d'occupation du domaine public appelée FPS, forfait post-stationnement, dont le produit arrivera directement sur un compte de la ville, contrairement au produit des amendes qui est reversé l'année suivante et représente un montant d'environ 23 euros par contravention, quel qu'en soit le montant. Comme actuellement, pour la gestion des contraventions, passage d'une convention avec l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, pour la gestion du forfait post-stationnement. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est une gestion qui est faite par un traitement automatisé des infractions qui se situe à Rennes. Afin d'éviter la tenue d'une régie et la gestion des réclamations, et en plus, bien sûr, du personnel supplémentaire qui serait dédié à cette tâche. Montant du forfait post-stationnement. Donc, le montant du forfait post-stationnement sera fixé à 35 euros. Ce prix inclut, en fin de compte, le prix de la taxe du même montant, que ce soit, excusez-moi, que la commune perçoit actuellement de l'État pour les contraventions relevées par la police municipale, plus le coût des matériels, plus le prix des licences du logiciel par smartphone, plus le tarif des courriers aux contravenants gérés par l'ANTAI. Donc on verra ça un petit peu après. Donc pour vous expliquer, en essayant d'être pédagogue, en fin de compte, aujourd'hui, toutes les infractions qui sont relevées par la police municipale représentent un montant de 23 euros, quel que soit le montant de l'infraction. En fin de compte, si c'est une ceinture de sécurité, si c'est un excès de vitesse, si c'est un stationnement gênant à 135 euros, si c'est un forfait, un dépassement en zone bleue, et si c'est en fin de compte une infraction aujourd'hui au stationnement. À compter du 1er janvier 2018, donc l'État se désengage, en fin de compte, ils estiment que le stationnement payant en centre-ville est une occupation du domaine public. Donc ça sort du code de la route, en fin de compte, et ça sera une infraction municipale. Donc il faudra payer une taxe d'occupation du domaine public, et en fin de compte, le dépassement de cette taxe, qui sera bien sûr la taxe, c'est le rodateur, hein, puisqu'on paye sa place payante via le rodateur, le dépassement de ce temps de présence s'appellera le FPS, forfait post-stationnement. Donc pourquoi 23 euros? Vous allez me dire, mais oui, mais c'est 17 euros aujourd'hui si on fait une infraction. Et comme je vous l'ai dit, c'est en fin de compte globalisé. Toutes les infractions aujourd'hui sont globalisées. Donc à chaque fois, ce qui revient dans les caisses de la commune, c'est 23 euros. À peu près, on a 1500 infractions par an. Ces 1500 infractions par an, il y a 450 infractions qui sont dédiées au stationnement, hein, dépassement du stationnement payant, hein, donc FPS. Donc tout ça, c'est globalisé. Aujourd'hui, à peu près aux alentours de 50 000 euros pour ces infractions à 23 euros. Hein, c'est ce qui rentre dans la commune. On touche toujours en N plus 1, c'est-à-dire que les infractions relevées en 2018 ou 2017 seront payées en 2018. Tandis que demain, avec le forfait post-stationnement, l'infraction sera payée directement à la commune. Donc ça, c'était pour l'explication, en essayant d'expliquer, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre. Alors pourquoi le prix à 35 euros? Vous avez vu, hein, puisque ça a été, je dirais, un sujet qui a été assez médiatisé. 35 euros, il y a énormément de communes, en fin de compte, qui mettent à 35 euros, parce qu'à minima, tout rentrer dedans, les licences, hein, les smartphones que l'on est obligé d'acheter, en fin de compte, le traitement avec l'entaille, hein, je dirais la délégation en fin de compte de la gestion de ces infractions avec l'entaille qui représente 1,50 € par contravention sur le traitement, en fin de compte, l'impression, l'envoi du courrier et bien sûr l'affranchissement, hein, donc qui est de 53 centimes. Ça représente en gros par contravention, ça représente 1,52 €. Tout ça cumulé, ça fait 34,94 €. Donc c'est pour ça, arrondi en fin de compte, en prenant la base de 23 euros toujours par infraction pour la commune. C'est-à-dire que la commune, en mettant à 35 euros, ne gagne pas d'argent. Elle n'en perd pas. C'est exactement pareil que l'année dernière. Donc voilà pourquoi ça a été fixé à 35 euros et qu'il y a les trois quarts des communes le fixent à 35 euros parce que quand on part de 23, on arrive à 34,94 €. Donc au niveau du tarif du stationnement payant, donc avec les nouveaux appareils, hein, possibilité de payer par carte bancaire ou pièce. Stationnement payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, gratuit les dimanches et les jours fériés, prise d'un nouvel arrêté municipal relatif au stationnement payant et à l'ensemble des places, hein, puisque bien sûr on va avoir moins d'eurodateurs. Les eurodateurs qui sont retirés, en fin de compte, sont retirés au niveau, à partir, vous voyez la boulangerie Robot, et en face au niveau de l'hôtel des ventes, et jusqu'au palais des congrès. Toutes ces places-là étaient payantes aujourd'hui, elles ne le seront plus. Donc ça sera des zones bleues qui permettra d'avoir un petit peu plus de stationnement sur cette zone. Quand on a des spectacles ou tout simplement des représentations, ça nous permet de garnir du stationnement qui ne sera pas payant. Durée maximum autorisée par arrêté municipal, 2 heures. Une demi-heure gratuite par véhicule et par 2000 journées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, toutes les demi-heures, vont chercher un ticket. Là, on ne pourra plus qu'une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc, la demi-heure gratuite. Hein. Bien sûr, il y a la saisie du numéro d'immatriculation qui est obligatoire à la prise du ticket, comme ça, c'est maintenant partout sur les eurodateurs. La première heure, en fin de compte, est à 50 centimes. L'heure 30 est à 1 euro. Et les deux heures sont à 2 euros. C'est bien sûr, ces tarifs avaient été fait l'objet d'une délibération de stationnement votée en conseil municipal le 18 avril 2016. Deuxième point important, c'était sur l'étude sur l'extension du système de vidéoprotection. Donc en gros, depuis l'installation de ce système en 2014, nous avons eu 40 réquisitions de la gendarmerie. En 2015, nous en avons eu 23. En 2016, nous en avons eu 16. Et aujourd'hui, au 18-10-2017, nous étions à 33 réquisitions de la gendarmerie, donc réquisitions à image. Actuellement, nous avons 11 caméras. Au service technique, nous avons deux fixes et un dôme séquentiel. Au palais des congrès, nous avons deux caméras fixes qui ont été repositionnées dans le hall d'accueil. Ensuite, nous en avons bien sûr à l'extérieur. Rue du Général de Gaulle, donc un dôme entre le palais des congrès et l'espace Quénéré, plus une fixe. Donc c'est les deux supplémentaires. Donc au départ, nous en avions 8. Maintenant, nous en avons 11. Ça fera l'objet d'une délibération tout à l'heure. La gare, un dôme. Le Grand Café, rue Nationale, un dôme. Avenue Napoléon Ier, rue du Caire, nous avons toujours un dôme. Et rue du Caire, au niveau du missile, un dôme. En troisième point, donc, était venu sur l'extension du dispositif souhaité par la gendarmerie. Il y a des positionnements de certaines caméras, en fin de compte, existantes à revoir ou à remplacer, comme par exemple le Grand Café, pour citer celle-ci, puisque c'est la plus flagrante, au niveau du Grand Café, avec la végétation, la caméra qui est installée est une caméra séquentielle, donc un dôme qui tourne, qui donne des images à un moment, qui retourne, qui redonne sur un autre secteur à un moment et qui retourne. Aujourd'hui, il y a une très mauvaise visibilité, pratiquement quasi nulle, avec la végétation qui est devant. Et cette caméra sert très peu. En fin de compte, faudrait, puisqu'on est dans un périmètre de vidéoprotection et non pas sur un lieu vidéoprotégé, on pourrait déplacer cette caméra et la mettre notamment en surveillance de l'espace public par l'arrière de la statue de Lourmel. Donc là où on a, par la gendarmerie, où a été constaté quelques délits. Remplacement du dôme placé à l'angle de la rue Napoléon Ier et de la rue du Caire. En fin de compte, après le pont de chemin de fer, par des caméras fixes. Là, c'est pareil, nous avons des images. On a une transhumance après les barres en direction du missile sur ce cheminement. Rue Napoléon, rue du Caire, c'est toujours la même voie qui est empruntée, je dirais, malheureusement pour les riverains de ces rues, qui en pâtissent du jeudi au samedi soir, je dirais même au dimanche matin très tôt. Et donc, où avec notamment énormément de dégradations sur les véhicules, des dégradations de mobilier urbain et j'irais des incivilités ou alors tout simplement des déchets ou détritus qui sont énormément salissants sur la voie publique, voire dangereux, puisqu'il y a énormément de morceaux de verre et on est obligé de faire intervenir les services techniques assez souvent. Ensuite, sur les nouvelles implantations souhaitées, la place du Martré et ses alentours, souhaitée par la gendarmerie bien sûr. Place du Martré, il a été constaté, en fin de compte, la gendarmerie, pour justifier ses demandes, a une cartographie des délits et des crimes qui sont commis, en fin de compte, sur le territoire de la commune. Et cette cartographie, tout simplement, une fois que sont répertoriés tous ces crimes et délits, donne des lieux qui ressortent en rouge. La gendarmerie voudrait notamment bien surveiller et avoir des images pour amener à la vérité par rapport à ces délits ou ces crimes qui ont été commis récemment sur ces lieux. Donc la place du Martré et ses alentours, la rue du Général de Gaulle, la rue Leroy, la rue du Fil, tout cet angle en fin de compte, et la rue du Pont. Ensuite, sur une deuxième implantation souhaitée, c'est la rue Nationale au carrefour de la rue de Friedland, par une caméra fixe qui prend au niveau du carrefour Marquette. On a énormément d'incivilités dues en fin de compte à une consommation d'alcool excessive, des fois par certaines personnes, et on a eu des dégradations notamment sur des véhicules ou des vitrines. Ensuite, la rue du Caire, le missile, mais à partir de l'angle de la rue Guinemer, par une caméra fixe. Il est passé il n'y a pas longtemps, vous avez pu voir au tribunal de Lorient, donc le procès concernant le coup de feu qui a été tiré devant le missile, et surtout sur les coups et blessures qui avaient été donnés par les videurs Donc c'est vrai que une caméra placée à cet endroit-là permet aussi, parce que souvent on a des bagarres qui se passent sur le petit parking et qui n'est pas dans en fin de compte dans l'angle et le champ de vision de la caméra actuelle. Et place Aristide Briand, hein, donc un dôme positionné actuellement au Grand Café. Et donc c'est vrai que sur la plaine, on pourrait le déplacer sur le parking, mais derrière, ce qui nous permettrait d'avoir une bonne vue en fin de compte sur cette esplanade et sur le haut de la plaine, lieu souvent de rassemblement, lieu de manifestation et lieu actuellement de petits délits. Donc voilà un petit peu sur, pour à titre d'information, hein, parce que tout ça c'est souhaité par la gendarmerie, c'est pas validé pour l'instant par les commissions, hein, ça a été enregistré par la commission, on a fait un petit groupe de travail, en fin de compte, la police municipale est en train de travailler dessus avec des référents sécurité gendarmerie, et surtout on est en train de regarder budgétairement parlant combien ça pourrait coûter. Après bien sûr il y aura un débat démocratique. Un autre point qui était très important, donc sur le bilan des cartes d'identité, il était important, et des passeports bien sûr, il était important de réexpliquer ce nouveau dispositif et surtout de voir l'impact actuellement sur le service population au niveau de l'organisation, hein, de la mairie. Donc il a fallu revoir depuis un an et demi avec année de lit pratiquement, j'irais sur cette organisation et essayer d'affiner afin qu'il y ait une continuité dans ce service. Et qu'il ne soit pas totalement mangé par la distribution ou la délivrance de cartes d'identité et de passeports. Donc avant le 1er décembre 2016, pour les cartes nationales d'identité, les dossiers étaient déposés dans la commune de domicile uniquement. Le dossier était reçu le jour du dépôt par les agents, aucun rendez-vous n'était nécessaire. C'est ce qu'on avait connu précédemment, hein. Donc il y avait pour nous, j'irais, une fluidité, puisque au départ on avait transféré ça au service population, puisque c'était géré avant par la police municipale. Pour les passeports, seules 28 communes disposaient de l'outil informatique, envoi dématérialisé des dossiers en préfecture, permettant le dépôt des dossiers. Ce dispositif est appelé dispositif de recueil, encore aujourd'hui. Depuis le 1er décembre 2016, la dématérialisation de la transmission des dossiers des cartes nationales d'identité est mise en place. Le dépôt des dossiers des cartes d'identité se fait donc à l'identique des dépôts de dossiers de passeport. Les dispositifs de recueil servant pour les passeports sont désormais utilisés pour traiter les demandes de cartes d'identité. Pour ceux qui l'ont fait récemment, vous avez pu voir avec les prises d'empreintes, etc., et les envois par scan des dossiers complets. Donc, sauf pour 3 communes, le nombre de dispositifs de recueil déployés sur le Morbihan reste inchangé pour la mise en place de la procédure. Les 28 communes déjà équipées restent donc seules, compétentes pour recevoir les dossiers de cartes d'identité et de passeport. Vu l'accroissement des demandes de titres d'identité générées par cette nouvelle procédure et afin de gérer au mieux le flux des usagers, le demandeur, même mineur, doit être présent au moment du dépôt. La mairie de Pontivy a mis en place des rendez-vous, aussi bien pour les cartes que pour les passeports. Sur les 28 communes concernées, seule une commune n'a pas choisi ce mode de fonctionnement. C'est La Roche-Bernard, à titre d'information. Le service population s'attache à prioriser les rendez-vous pour permettre aux usagers d'obtenir leur titre d'identité dans les délais qui leur sont impartis, bien sûr, voyage professionnel ou de loisirs, voyage scolaire ou examen. Mais en sachant qu'on peut intervenir sur des rendez-vous d'urgence, on se garde toujours un petit créneau pour des passeports d'urgence, ça peut arriver notamment pour des entreprises ou tout simplement une personne qui s'aperçoit au dernier moment que son passeport n'est pas valable 6 mois après la date de son retour. Donc ça nous est arrivé sur un voyage ou des fois les voyages scolaires. Donc, où on nous demande des passeports en urgence. L'impact aujourd'hui sur le service, en fin de compte, de l'activité du service population. Pour le Morbihan, le nombre moyen d'usagers par dispositif de recueil est estimé à 21 796 par les services de l'État. Or, on constate que le potentiel du dispositif de recueil de Pontivy est bien au-delà de cette moyenne départementale. Il est à noter qu'il est un des plus utilisés du département. Évolution du nombre de dossiers de cartes nationales d'identité traitées. Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016, nous étions à 676. Du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017, nous sommes à 1663, soit plus 246% avec toujours un seul dispositif de recueil. Donc c'est là qu'il a fallu retravailler en fin de compte sur l'organisation interne. Le taux d'utilisation du dispositif de recueil depuis janvier 2017, hors période scolaire, est compris entre 72 et 112%. 72% correspond au mois de septembre, où bien sûr on a eu un très grand nombre de désistements enregistrés, parce que les personnes peuvent enregistrer aujourd'hui pour plusieurs demandes dans plusieurs, en fin de compte, mairies. Et c'est la première qui est servie, mais en fin de compte, ils ne préviennent pas quand j'irai pour dégager leur rendez-vous. Sans les désistements, le taux aurait été de 90%. Le taux d'utilisation est plus faible pendant les vacances compte tenu de la réduction des effectifs du service pendant ces périodes. Le service population constate depuis 2 mois un nombre important de désistements. Cela peut s'expliquer par le fait que l'usager peut déposer son dossier dans n'importe quelle mairie équipée, bien sûr, d'un DR. C'est très dommageable pour les usagers, car le service n'est alors pas en mesure de placer une autre personne. On ne le sait pas à l'avance. Donc on va y remédier, vous allez voir. Donc, à titre d'exemple, sur le mois de septembre, nous avons eu 59 désistements, soit 20% des rendez-vous donnés, soit 4 jours de rendez-vous sur un mois. Donc c'est important parce qu'il y a quand même assez d'attentes. Hein. Nous sommes à 3 mois actuellement. Cet accroissement des demandes a fortement impacté le travail des agents du service. Le traitement d'un dossier ne comprend pas uniquement le délai d'enregistrement des dossiers et ne se concentre pas uniquement sur le poste d'installation du dispositif informatique. Il convient d'y ajouter en amont le temps consacré à la prise de rendez-vous et à la communication des pièces nécessaires. Ce temps n'est pas à négliger car lorsque le dossier est incomplet, soit son enregistrement est impossible, soit la préfecture demande ultérieurement un complément de dossier. Dans les deux cas, l'usager doit revenir. Ce temps n'est pas non plus négligeable, car tous les agents du service sont mis à contribution, aussi bien pour l'accueil physique que pour l'accueil téléphonique. Le service population envisage de mettre un calendrier de rendez-vous à disposition des usagers sur le site internet de la ville. L'objectif sera de faciliter la démarche pour l'usager, de grouper sur une même page l'accès à toutes les démarches du service population, avec les demandes d'actes d'état civil, les demandes d'inscription sur les listes électorales, etc. et de réduire le nombre important de désistements, relance de l'usager par mail ou demande de confirmation de présence au rendez-vous, et de réduire le temps consacré à la prise de rendez-vous au sein du service. Ensuite, on avait fait un petit bilan sur les cimetières. Le cimetière de Quai-Rentré, donc sur 4462 concessions, il y en a 720 de libres. J'incite pas, hein, bien sûr. Et 3000, je pense pas à la consommation, et 3742 occupés, soit 83%. C'est important parce qu'il y a énormément de communes. Vous savez que pour faire des extensions sur les cimetières, c'est assez long. Hein, c'est des procédures particulières au niveau de l'urbanisme et avec des achats de terrain. Et des fois, il y a beaucoup de communes qui sont totalement bloquées parce qu'elles n'ont plus de place disponible pour accueillir, en fin de compte, des citoyens, dans le cimetière de la commune. Nous, on a un très bon renouvellement, que ce soit par les reprises de concessions et par rapport, au décès annuel. Donc, actuellement, il y a des places disponibles dans nos deux cimetières, que ce soit Quai-Rentré ou Stival. Et bien sûr, des places disponibles aussi au niveau, ce qu'on appelle les cases, du columbarium. Hein. Donc, poser les alvéoles au fur et à mesure de la demande, bien sûr, 24 emplacements de prêt à recevoir des cases. Le cimetière de Stival, c'est pareil, sur 507 concessions, 382 sont occupés et 125 de libres, soit 75%. Sur cette case, bien sûr, on parle du columbarium, 5 occupés et 2 libres. Bien sûr, le jardin du souvenir est toujours présent sur Quai-Rentré, donc pour ceux qui veulent ne pas prendre de columbarium ou ne pas être enterrés. Ensuite, en dernier point, on avait la compétence transférée aux officiers d'état civil, une compétence de plus récupérée par la commune. La loi de modernisation de la justice du 21e siècle, du 18 novembre 2016, opère un certain nombre de transferts de compétences des tribunaux aux officiers d'état civil. Depuis le 1er janvier 2017, les officiers d'état civil sont compétents pour recevoir les demandes de changement de prénom et les demandes de rectification des actes d'état civil. C'est ce qu'on fait déjà actuellement. Cette loi a aussi déjudiciarisé les demandes de changement de nom pour mise en concordance de l'état civil français avec le nom retenu par un état civil étranger. On en a fait quelques-unes aussi. Enfin, à compter du 1er novembre 2017, et là c'est là que des choses un petit peu changent, les officiers d'état civil recevront les déclarations d'enregistrement, de notification et de dissolution des PACS. Aujourd'hui reçues en fin de compte par les tribunaux d'instance. L'officier de l'état civil compétent pour recevoir la déclaration conjointe du PACS sera celui de la commune dans laquelle les partenaires déclarent fixer leur résidence commune. L'officier de l'état civil compétent pour recevoir les modifications et les dissolutions de PACS sera celui de la commune d'enregistrement du PACS. Donc c'est important, en fin de compte, bien sûr, gérer la chef du service population à délégation donc pour recevoir ces actes et ce sera sur prise de rendez-vous. Ensuite, en dernier point, le déplacement de la stèle devant l'église de Stival. Donc, dans le cadre du réaménagement du bourg de Stival, l'architecte des bâtiments de France a donné des orientations, en fin de compte, puisqu'il y a un réaménagement devant l'église de Stival. Et la stèle actuellement érigée devant l'église de Stival, en hommage aux soldats morts pour la France, nécessite d'être déplacée. Hein, donc ce n'est pas un très gros déplacement, en fin de compte, c'est un quart de tour hein, dans le sens horaire que l'on fait à la stèle, plutôt que d'être face au parking. Actuellement, vous avez vu un petit peu le plan, mais c'est le plan qui est fait par M. Garetta. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Elle sera tournée plus exactement comme l'entrée de l'église actuellement, puisque nous aurons un réaménagement avec un terrain. Le terrain sera stabilisé, et ce qui permettra, lorsqu'il y a l'harmonie municipale, lorsqu'on a en fin de compte les officiels, les porte-drapeaux et j'irai le public, de ne pas en avoir certains qui ont les pieds dans l'herbe ou les pieds dans la boue lorsqu'on était mouillé, et d'autres. Donc tout sera en stabilisé et ça sera un petit peu mieux pour accueillir, je dirais, et rendre hommage. La stèle doit donc être éloignée des abords de l'église. Pour autant, son nouvel emplacement doit permettre la tenue des cérémonies. Son déplacement devra en tenir compte. Ce déplacement sera l'occasion également de changer son orientation, comme je viens de vous l'expliquer. Donc un petit quart de tour sur la droite.
Bien. Donc, avez-vous des questions sur le rapport?
Oui, avant de passer à la démission.
Oui, Loïc. Garçon Montaigne.
Oui, j'ai quelques remarques ou quelques questions par rapport à ce qui était dit. Alors, sur le stationnement payant, pour bien comprendre un peu l'histoire, donc on était à 17 euros, c'est bien ça? Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais eu de PV, stationnement payant. Donc aujourd'hui, on arrive à 35. J'ai bien compris qu'on avait une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre de tickets ou repartir pour une autre demi-heure. La verbalisation va se faire comment? C'est-à-dire que quelqu'un qui, donc au lieu de rester une heure, reste trois heures, que la police municipale passe, qu'elle verbalise, donc il n'aura rien, pas de papillon sur le pare-brise, ça sera directement lui qui recevra à son domicile la verbalisation.
Alors tout à fait, avec les nouveaux systèmes en fin de compte des horodateurs et les smartphones qui sont équipés, en fin de compte il n'y a même plus besoin de mettre de ticket à l'intérieur de la voiture. Pourquoi? Parce que tout est en fin de compte avec l'immatriculation que vous rentrez, tout est envoyé sur le smartphone à distance et les places qui sont payées et occupées sont automatiquement transmises sur le téléphone de l'agent. Donc qu'il soit à proximité ou qu'il soit à côté, en fin de compte, à n'importe quelle distance des parcs-mètres, même sur la plaine. Donc il sait exactement l'occupation et il sait aussi les véhicules qui sont en dépassement horaire directement sur son smartphone. Ensuite, il y a juste à aller avec son smartphone à flasher la plaque d'immatriculation et en fin de compte, l'amende est aussitôt envoyée à l'entaille. Donc ça, c'est actuellement, ça se passe un petit peu partout. Par contre, l'avantage de ces nouveaux horodateurs, c'est que si, admettons, vous êtes chez Robo et que vous êtes garé au début de la rue nationale, vous n'avez pas besoin de revenir sur le parc-mètre initial pour reprendre un ticket. Vous pouvez relancer directement et ça automatise sans retourner à la voiture, en fin de compte, qui est garée, admettons, 500 mètres plus loin.
Ce qui veut dire que si la police est sur la plaine, ils voient que chez Robo, je suis en infraction.
Exactement. Ils voient qu'il y a des voitures chez Robo en infraction.
Alors on peut en rire, mais c'est un flicage extrême. Quand même.
C'est pas un flicage. Mais après, vous pensez surtout bon, à remettre, pour éviter les 35 euros, tout simplement à remettre 2 euros dans le parc-mètre, et puis, ou 1 euro ou 50 centimes dans le parc-mètre, et puis c'est reparti.
Remarquez, si vous ne payez pas, vous n'êtes pas fiché. Hein, donc, comme ça, au moins, vous n'êtes même plus dans le truc.
Pardon?
Vous aviez peur d'être fiché, donc je vous dis sinon, si vous ne payez pas, à Robo, vous ne serez pas fiché, mais je ne sais pas si c'est mieux. Quoi.
Sans commentaire.
J'ai quand même moi aussi du mal à comprendre, si on reste plus longtemps, si une autre voiture ne vient pas à votre place, comment le policier sait que vous êtes toujours au même emplacement s'il ne passe pas par là?
Pour verbaliser, il est obligé d'avoir un scan de la plaque d'immatriculation. Donc il est obligé de passer en fin de compte pour la verbalisation.
Mais donc s'il passe pas, même si vous avez dépassé, il n'a pas forcément l'information, quoi.
Oui, s'il passe pas, il n'a pas l'information, mais il est à proximité. Il faut savoir aujourd'hui que des villes comme Vannes font de la verbalisation par télésurveillance. Les villes qui sont équipées de centres de contrôle arrivent avec les caméras à verbaliser parce qu'ils savent que les gens ont déplacé. Nous, on n'en est pas là aujourd'hui. Le but, c'est pas, d'aller à la chasse aux infractions. Le but, c'était de permettre une fluidité, en fin de compte, du stationnement rue nationale, tout simplement.
Parce qu'il y a l'objectif aussi des stationnements payants, c'est d'avoir une certaine rotation.
Éviter ces voitures tampons, on avait des...
Et ce qu'il faut, c'est s'astreindre si vous avez besoin de plus de temps que prévu à stationner dans un endroit où c'est gratuit, quoi, en fait.
On a diminué le nombre de rodateurs. En fin de compte, c'était pour permettre un plus grand turnover, hein, parce que bon, on n'a pas que des commerçants qui restent là toute la journée et qui mettent toutes les demi-heures. On a des personnes qui travaillent dans des bureaux ou tout simplement à proximité, ou des gens qui vont laisser leur voiture, même des riverains qui laissent leur voiture et qui redescendent de temps en temps, voilà, parce qu'ils savent que à peu près à telle heure ou telle heure les policiers municipaux passent. Ils ont repéré un petit peu les schémas de patrouille et puis ils arrivent un petit peu à s'en sortir comme ça.
Christophe, et juste pour être d'accord avec Loïc, ça m'arrive, c'est vrai que l'objectif, c'est ça le nouveau monde, Loïc. L'objectif commun, c'est surtout de ne pas pénaliser les consommateurs du centre-ville. C'est de fluidifier effectivement les stationnements, empêcher aussi inciter plutôt les employés du centre-ville à aller se garer sur les parkings périphériques. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de ne pas pénaliser les consommateurs du centre-ville, bien au contraire. Et puis finalement, nos policiers municipaux, ils avaient des plages horaires pour intervenir, ce sera les mêmes. Donc voilà, évidemment, il n'y a pas ce flicage.
Non, parce que bon, c'est vrai que ces nouveaux horadateurs ont plein de possibilités, même des fois dans le cadre des braderies ou des choses comme ça, il pourra y avoir des espèces de cartes, un petit peu comme ça se fait, où les commerçants peuvent offrir des tickets de stationnement gratuits ou qui sont prépayés déjà par... Donc tout ça, on est en train de regarder sur les évolutions, en fin de compte, de ces horodateurs. Donc ça peut être intéressant et permettre justement aux consommateurs de se garer au plus près des commerçants.
Des zones qui sont, que je considère comme intermédiaires, style zone bleue en haut de la plaine, qu'en est-il par rapport à ça? Là, donc rien ne change pour l'instant à ce niveau-là.
Mais on pourra... Ouais. Ouais, alors pour l'instant, rien ne change. En fin de compte, on a toujours 1h30, enfin en zone bleue. Hein. En fin de compte, on a trois styles de stationnement en proximité immédiate du centre-ville. Pour ceux qui veulent aller au plus près, c'est vrai que c'est payant. Après, un petit peu plus loin sur le haut de la plaine et sur certaines rues adjacentes de la rue nationale, nous avons des zones bleues hein, qui vous permettent de rester 1h30, en sachant que là, vous pouvez retourner à votre voiture et remettre un coup de disque et puis c'est reparti pour 1h30. Donc là, il y a une possibilité aussi. Et tout, en fin de compte, l'autre partie de la plaine est en stationnement non payant.
Oui.
Hein, et le parking des Pyramides, pareil. Donc on a Pontivy est une ville quand même où il y a du stationnement non payant assez important à proximité des commerces.
Donc, il serait bon de rappeler peut-être le nombre de places payantes, mais tu l'as peut-être pas là, mais nombre de places payantes, zone bleue, et on l'a eu sur ce qu'on fait le conseil municipal des enfants. Mais là, il va y avoir une réduction des places.
Alors justement, je tendais la perche à Soisy parce que.
Il y a une plaquette qui a été faite par le conseil municipal des enfants sous donc l'impulsion de la commission au cadre de vie. Et donc, on a dit que c'était plus de 6000 places de stationnement qui existaient dans le centre-ville de Pontivy et où, à proximité où il faut marcher un petit peu, mais 6000 places de stationnement payant. Et effectivement, non payant. Et je rappelle que même les places de stationnement payant, le frein, ce n'est pas le montant. La plupart du temps, c'est la monnaie qu'on a dans le porte-monnaie. Effectivement, les cartes bancaires,
là, avec le système de cartes, sans contact,
ça va faciliter le stationnement.
Voilà. Et c'est vrai que je reprends ce que dit Soisic. Le conseil municipal des enfants a travaillé et pendant un moment, on nous avait demandé justement de savoir les places qui étaient payantes et pas payantes. On attendait justement le passage en conseil de cette délibération avec le prix fixé pour refaire travailler les enfants du nouveau conseil municipal des enfants sur une plaquette réajustée avec les places, avec le montant, etc. et avec un montant explicatif plus en détail au niveau des zones bleues, combien de temps, là, tel endroit, ça coûte tant, si on dépasse, ça coûtera tant, etc. Donc le nouveau conseil municipal pourra travailler sur une nouvelle plaquette.
D'autres questions ?
Oui, j'avais une autre question concernant les caméras. Donc, on a une synthèse qui a été faite. Moi, je regrette quand même qu'on n'ait pas un bilan, y compris de la gendarmerie, sur les effets ou pas de ces caméras. Et avant d'en installer d'autres, j'aimerais qu'on fasse un bilan. Il y a un comité d'éthique qui doit être consulté, donc on n'en parle pas. C'est pour ça que je voudrais que qu'on ait tous ces éléments-là avant de se prononcer sur de nouvelles caméras éventuelles.
Alors effectivement, en fin de compte, là, on va avoir une réunion du CLSPD hein, qui va avoir lieu début décembre, hein, où on parle un petit peu des bilans, hein, qui sont bilan gendarmerie, plus en détail, avec tel type de délit, tel type de crime sur tel secteur. Hein, donc ces données, des fois, sont confidentielles. Après, c'est réajusté, j'irais, et dans un autre langage, et plus clair, en édulcorant, en fin de compte, certaines choses qui sont sensibles et qui sont montrées, normalement, au comité d'éthique. Le comité d'éthique doit se réunir soit en fin d'année ou début d'année. Xavier, on en avait discuté pour le comité d'éthique, mais et c'est là qu'on fait effectivement le bilan traditionnel annuel de temps de réquisition, est-ce que ça a apporté ses fruits, de la résolution d'affaires, éventuellement d'affaires en cours, etc. etc. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de demandes, même si certaines caméras, en fin de compte, sont pas assez précises. C'est pour ça que la gendarmerie nous demande toujours, par rapport à la technologie évolue très très vite, il y a des caméras qui sont de plus en plus au niveau de la dépixelisation. En fin de compte, plus on grossit, moins des fois on voit avec les caméras qu'on a actuellement. Et c'est vrai que les nouvelles caméras génération, en fin de compte, on peut grossir. Et pour la gendarmerie, ça les intéresse, bien sûr, parce qu'ils ont une reconnaissance soit faciale ou une reconnaissance de plaque d'immatriculation qui peut amener à la vérité ou à la résolution de l'enquête.
Bien, pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va passer aux délibérations, Christophe.
Donc, délibération pour la convention avec l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, pour la gestion du forfait post-stationnement, appelé FPS. La convention s'y annexée a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l'ANTAI s'engage au nom et pour le compte de la collectivité à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, FPS, initial ou rectificatif, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l'acquéreur du véhicule, conformément à l'article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales. Elle a également pour objet de régir l'accès au système informatique du service du forfait de post-stationnement de l'ANTAI, service FPS ANTAI, et d'en définir les modalités et conditions d'utilisation. Elle a enfin pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l'ANTAI s'engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. Elle définit notamment les engagements respectifs des parties dans son article 4 et les conditions financières dans l'annexe 1. Elle est conclue pour une durée ferme commençant à compter de la signature de la présente convention et se terminant le 31 décembre 2020. Une nouvelle convention est nécessaire pour prolonger l'adhésion au service. Nous vous proposons d'émettre un avis favorable à la convention s'y annexée et d'autoriser Madame la maire à la signer.
Bien, pas de questions. Donc je vous soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Délibération approuvée. Je vous en remercie. Donc vous aviez tous les documents de la convention avec l'ANTAI à suivre. Bien, merci. Merci Christophe. Donc je passe au point commerce, donc sur l'ouverture des commerces pour l'année 2018, donc la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a modifié certaines dispositions du Code du travail en élargissant les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche. Donc l'article L3132-26 du Code du travail, modifié par la loi précitée, dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise avec avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Donc après consultation des associations locales de commerçants, il vous est proposé d'approuver le principe d'autoriser pour l'année 2018 l'ouverture des commerces de détail sur le territoire communal les 4 dimanches suivants, le dimanche 14 janvier 2018 et les 3 dimanches précédant Noël, soit les 9, 16 et 23 décembre 2018. Avez-vous des questions ? Je vous soumets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Donc, la délibération est adoptée. Alors, pour votre information, nous y reviendrons. Nous avons eu, puisque les quatre dimanches pour l'année 2017 avaient fait l'objet d'une délibération aussi, mais nous avons eu une demande là, de grande surface pour ouvrir le 31 décembre, puisque le 31 décembre, c'est le jour du réveillon. Et donc, nous avons eu Ah oui, le non, le dimanche. Le oui. Oui, merci. C'est un dimanche et donc c'est un jour férié, c'est le jour du réveillon et donc il demande l'autorisation d'ouvrir. Alors donc nous avons l'une des grandes surfaces ayant fait sa demande il y a quelque temps, nous avions posé la question à l'UCIAP qui avait donné un accord et nous venons d'avoir une deuxième demande. Voilà, j'en reparlerai très prochainement puisque la commission doit se réunir. Oui, mais le 24 faisait déjà l'objet de la délibération de l'année dernière, tandis que le 31 n'avait pas été entériné. C'était le choix 2017. Donc voilà.
Donc vous avez validé pour le 31 l'ouverture.
Je n'ai pas répondu, mais je vois difficilement comment. Je pense que c'est un service que l'on rend à tout le monde, quoi. D'autant qu'on a l'accord, de l'UCIAP, c'était par rapport au commerce alimentaire de centre-ville, que je souhaitais recueillir leur avis. Et donc, je pense qu'ils ont, ils ont posé la question aux commerçants intéressés qui ont accepté, quoi. Oui, monsieur Marchand.
Il s'agit de toutes les grandes surfaces ou d'une seule?
Alors, j'ai eu une première qui a posé la question, et puis c'est la semaine dernière que nous avons eu la demande d'une autre. Alors nous avons trois enseignes. Mmh. Donc,
et jusqu'à quelle heure? Parce qu'il faut penser aussi aux salariés de ces grandes surfaces qui ont
alors,
aussi
je
un
n'ai
réveillon
pas,
à préparer.
Je n'ai pas en tête les horaires, mais j'en reparlerai au moment de la commission.
Oui, je rappelle simplement qu'ils ont la possibilité d'ouvrir le dimanche jusqu'à 13h, puisque ce sont des commerces alimentaires. Et effectivement, si on veut l'étendre jusqu'à, je sais pas, 18 ou 19h, il faut effectivement une... Mmh.
Mmh. Mais c'est intéressant quand même de bloquer peut-être à une certaine heure pour que l'ensemble des salariés de ces grandes surfaces puissent préparer leur réveillon eux aussi.
Oui, oui, mais a priori, elles ferment, j'ai plus antenne, mais elles ferment un petit peu plus tôt. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai fait voter la délibération, du coup, je ne sais plus. Oui, si, je l'ai fait voter. Bien, et nous en venons donc à la commission vie des quartiers. Je donne donc la parole à Yann Lourcy.
Oui, merci Madame la Maire. Donc la commission vie des quartiers s'est réunie le 11 octobre dernier et vous avez donc sous vos yeux le compte rendu en fait de cette réunion. Donc je souhaitais simplement rappeler que depuis 3 ans, effectivement, les conseils de quartier ont été mis en place pour assurer une meilleure proximité auprès des pontiviens et être plus efficace sur la résolution des problèmes propres à chacun des 9 quartiers. Suite au bilan réalisé le 23 septembre 2017 avec les conseillers de quartier, et pour améliorer le fonctionnement de ces conseils, il a été proposé donc, de réunir de façon systématique les conseils une fois par trimestre, de mettre en place un logiciel de suivi des demandes de quartier, d'organiser si besoin des réunions ciblées en mairie ou sur le terrain afin de trouver des solutions pragmatiques, d'ouvrir la réunion à un riverain si le besoin s'en faisait sentir, afin d'atténuer la non-représentation de certains secteurs dans nos conseils de quartier liés notamment au tirage au sort, de recevoir l'élu référent au bureau municipal pour une problématique particulière ou spécifique. Sur le fonctionnement des visites de quartier, nous tâcherons d'améliorer la communication via les réseaux sociaux et sensibiliser le conseil municipal des enfants. Le renouvellement des conseils de quartier donc se fera au 1er janvier 2018, mais il nous manque quelques candidatures, notamment sur le quartier du Four à Chaux, Kérostin, Couette-Beaupère, Roi-Rousse, Le Gros-Gêne, de Stival et de Bellevue, Pigeon Blanc, Talcouette. Donc sur 3 quartiers. Merci de votre attention. Je sais pas si...
Avez-vous des questions sur ce rapport? Oui, Loïc.
Oui, je remarque que pratiquement tous les conseillers de quartier étaient excusés pour cette réunion-là. Et je ne trouve pas ça très normal, sachant que des conseillers de quartier sont des conseillers délégués. D'accord? Donc je trouve que, bon, soit la date ne correspond pas, mais c'est quand même pas très logique, ou ça ne les intéresse plus, mais c'est pas très logique qu'ils ne soient pas présents, ou au moins, on en voit quand même.
Alors moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable de ces élus référents. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y avait déjà une réunion le 23 septembre avec l'ensemble des conseillers de quartier, sur lesquels ils étaient présents pour la plupart. Donc voilà, bon, après, effectivement, je n'ai pas les raisons exactes des non-disponibilités des uns et des autres, parce que je ne les ai pas demandées, mais on l'a regretté également ce soir-là.
Le Marchand.
Oui, il avait été noté donc lors de cette commission qu'il n'y avait pas eu de réunion de comité quartier du centre-ville depuis le début du mandat. Et à cette occasion, il y avait un terme qui avait été employé, c'était le terme de dysfonctionnement. Donc je vois que ce n'est pas noté dans le compte-rendu, donc je voulais le rappeler.
Bon, ce n'était pas depuis le début du mandat. Sur la dernière année. Sur la dernière année. Sur la dernière année.
Oui, Monsieur Marchand, et j'étais même déléguée de quartier. C'est une des raisons pour laquelle j'ai démissionné, parce que j'en avais prévenu Madame la maire, c'était l'année électorale. Et effectivement, le temps m'a manqué, je n'ai pas pu assumer ces fonctions. C'est pour ça que j'ai préféré donner la main à Madame Jouantès et Madame la maire qui en a décidé. Mais oui, effectivement, j'assume complètement de ne pas avoir fait de réunion l'année 2016-2017. Mais autrement, il y en a eu régulièrement.
Bien, redéploiement du système de vidéoprotection. La délibération aurait presque pu être proposée par Christophe. Donc, suite à l'installation du système de vidéoprotection en mars 2014, la nécessité de faire évoluer le dispositif avait été identifiée par le diagnostic local de sécurité établi par la Gendarmerie nationale en septembre 2014 et validé lors de la séance plénière du Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance en date du 13 novembre 2015. Donc validé par arrêté préfectoral en date du 20 mai 2016, l'installation de ces nouveaux équipements a fait passer le nombre de caméras de 8 à 11 pour un coût de 15 910,70 €. Vous savez, c'est sur le site du Palais des Congrès et des services techniques. Donc nous vous proposons d'autoriser à solliciter une subvention d'État au titre de la dotation d'équipements des territoires ruraux. Donc c'est une délibération qui est passée... pour régularisation, pour pouvoir obtenir une subvention. Donc, voilà, avez-vous des questions? Donc, je vous soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc, la délibération. Oui. Donc, une, deux. Abstention. Oui. Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Sur les indemnités de fonction, je ne sais pas si je dois la relire, c'est la même délibération que celle présentée lors du dernier conseil municipal, sauf qu'il avait été repris, vous savez, l'indice 1015 qui était repris à chaque fois, sachant qu'il y a eu une modification entre-temps et qu'on doit... on doit parler de l'indice brut terminal de la fonction publique et non plus d'un indice en particulier. Donc la délibération a été arrêtée au contrôle de légalité et le sous-préfet nous a demandé de la reprendre en faisant référence de l'indice brut terminal de la fonction publique. Alors je ne sais pas si vous souhaitez que je la relise. Donc voilà, c'était la délibération qui permettait donc d'accorder notamment une indemnité de fonction aux référents de quartier. Donc cette délibération annule et remplace bien sûr celle que nous avions votée le 9 octobre 2017. Pas de questions ? Oui, Loïc.
Oui, je profite qu'on parle de la fonction des indemnités de fonction d'adjoint et donc de maire pour vous poser une question par rapport au dysfonctionnement qu'on rencontre au niveau des commissions, parce qu'on a un certain nombre de malheureusement de d'adjoints qui sont malades. Qu'en est-il pour l'avenir? Comment c'est organisé pour les prochains mois? Rapport à ça, puisque donc...
Alors nous avons deux adjoints qui ont un souci de santé, qui espèrent pouvoir reprendre au début de l'année prochaine. Donc voilà, sinon si c'était pas possible, effectivement je reverrai la situation. Alors oui, je voudrais quand même spécifier que j'assume leur absence et que les commissions, donc nous avons eu une commission culture la semaine dernière, la commission commerce est prévue la semaine prochaine et que, bon, j'assume leur absence. Voilà. Donc, je vous propose cette nouvelle délibération qui est une délibération de régularisation. Donc, je vous la propose au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et nous en venons donc aux sujets principaux de ce conseil municipal, donc l'acquisition du site de la CPAM. Donc le projet de pôle médical a été initié en 2015 à l'occasion d'échanges avec le promoteur Campagne Construction, qui a constitué à cette fin la société Pôle Médical et la CPAM. La ville l'a accompagné dès l'origine en réaffirmant son intérêt à ce qu'il soit réalisé dans le centre de Pontivy afin d'y maintenir cette activité majeure. Il a commencé à se matérialiser fin 2015 par la validation des professionnels de santé, puis en 2016 par le dépôt d'un permis de construire. Au cours du processus, l'acquisition du site a donné lieu à une nouvelle évaluation de France Domaine qui s'est avérée nettement supérieure à l'évaluation initiale. La négociation entre les parties prenantes n'ayant pas permis de faire évoluer positivement la situation, la ville s'est posée en interlocutrice directe de la CPAM en vue d'une revente aux porteurs de projet. Le site est constitué par un ensemble immobilier cadastré BD165 pour une superficie de 1503 m², sis à l'angle de la rue Nationale numéro 99 et 101 et de la rue d'Iéna numéro 20, avec la rue Julien numéro 4 et 6, et comprenant un bâtiment principal à usage administratif aspecté rue Nationale et Julien, construit en pierre, couvert en ardoise avec soubassement et corniche en granit, un petit bâtiment construit en pierre et couvert en ardoise avec une pièce au rez-de-chaussée et une autre au-dessus, une cour goudronnée accessible aux véhicules à partir de la rue Julien, et à l'est de ces divers bâtiments, un jardin clos de murs avec un grand garage donnant sur la rue d'Iéna, terrain d'assiette du projet de bâtiment neuf. Le prix d'acquisition confirmé par France Domaine dans un avis rendu le 16 octobre 2017 est fixé à 531 000 euros, frais liés à l'acte en sus. Cette acquisition est notamment assortie d'une condition de maintien dans les lieux à titre gratuit au bénéfice de la CPAM pour une durée de 18 mois. Donc nous vous proposons d'émettre un avis favorable au projet d'acte ci-annexé et d'autoriser à le signer ainsi que tous les actes se rapportant à ce dossier. Donc voilà concernant, c'est un projet dont nous avions déjà beaucoup parlé lors de la dernière séance du conseil municipal. Cette délibération reprend rapidement l'historique du projet. Donc voilà, avez-vous des questions concernant cette délibération? Oui, Loïc.
Donc sur ce dossier, on a toujours du mal à comprendre pourquoi cette transaction qui pouvait se faire à deux se fait à trois. Et on remarque que dans les modalités de la transaction, il y a une avance de la ville pour 531 000 euros qui va être reversée. Donc c'est de l'argent public pour un promoteur privé. C'est une avance de 18 mois qu'on va faire. Que la ville va faire, ce qui correspond quand même, et Yann a rapidement fait les calculs, si c'est un taux de 1,5, à moins que c'est l'autofinancement, mais ça fait entre 10 et 15 000 euros que la ville avance. Deuxième chose qu'on a remarqué et que c'est noté nulle part, c'est que qu'est-ce qui dit que la CPAM va rester à Pontivy, va conserver ses locaux? C'est quand même un risque pour la ville. Donc, beaucoup d'interrogations qui nous laissent penser que les modalités de transaction ne sont pas sécurisées, ne sont pas réunies pour donner une suite favorable à cette vente. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette transaction.
Et alors sur la transaction, je vous avais déjà répondu lors du dernier conseil municipal que la ville s'est posée en facilitateur parce que c'est un projet qui est très attendu sur la ville et je dois dire que depuis que nous en avons délibéré, lorsque je rencontre des pontiviens dans la rue, c'est un projet auquel ils tiennent beaucoup. C'était un projet qui était finalisé, le permis de construire a été accordé en juillet de l'année 2016. 22 professionnels sont aujourd'hui prêts à intégrer le pôle médical et chaque fois qu'il y a un retard sur ce dossier, je vous assure qu'ils viennent remettre la pression parce qu'ils sont pressés et que c'est la condition pour nous d'avoir une offre de santé qui se tient. L'intérêt du projet était aussi dans sa résidence en centre-ville pour faire vivre notre centre-ville. Donc, la ville s'est portée pour faciliter, parce que le projet était quasiment abouti, avait reçu l'assentiment de tous, et qu'il aurait été compliqué de repartir sur un nouveau projet qui aurait demandé un nouveau projet architectural. D'abord, un lieu. Encore fallait-il trouver le lieu en centre-ville, un nouveau projet architectural, une nouvelle demande de permis de construire, alors que celui-ci est attendu aussi par les professionnels. N'oublions pas non plus que le laboratoire est quasiment achevé en face et que l'installation du laboratoire dans cette rue était parce qu'il y avait justement ce projet de pôle médical juste à côté pour créer tout un ensemble de services médicaux et paramédicaux. Donc quand la discussion, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, devenait trop longue et puis était arrivée quasiment à un point de non-retour, c'est à ce moment-là que j'ai proposé que la ville achète l'équipement et puis recède. Alors effectivement, cela génère des frais que la ville, mais je vous rappelle que dans beaucoup de communes, ce sont les collectivités qui construisent les pôles médicaux. Alors nous étions félicités que ce soit un projet privé parce que la ville n'avait pas à débourser. Bon, malheureusement, nous allons devoir effectivement y mettre un peu d'argent, mais l'intérêt est que ce pôle médical se construise et que nous puissions répondre, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne sont plus en mesure d'accepter de nouveaux patients, et c'est un vrai problème, un problème qui est souligné par les nouveaux arrivants qui n'arrivent pas à trouver un médecin. C'est un problème qui n'est pas propre à Pothivy, c'est sur tout le secteur, mais à Cléguérec, nous avons reçu un courrier du maire de Cléguérec nous disant que les médecins de Cléguérec n'accepteraient plus non plus de patients de Pothivy. Donc c'est aussi la condition pour qu'à Pothivy, nous puissions recevoir de nouveaux médecins. Quelques futurs médecins en fin d'études sont intéressés pour s'installer à Pothivy, et ce pôle médical en est la condition. Mais sachant qu'ils sont quand même très très sollicités à droite et à gauche, on leur fait des ponts d'or pour aller ailleurs, et que si ce pôle médical ne sort pas suffisamment rapidement, nous perdrons aussi certains de nos jeunes médecins. Voilà ce que je pouvais vous répondre, et d'où l'intérêt de la ville pour faire en sorte que ce dossier aboutisse.
Nous, on a porté un intérêt aussi, on a toujours répondu favorablement à ce projet. Simplement, je voulais mettre en avant les risques que ça peut représenter, parce qu'au départ, on était à deux, nous voilà à trois, et si on est à trois, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire que... entre la CPAM et le promoteur immobilier, je suppose que la confiance n'existe pas. Mais la ville prend un risque, à la fois au niveau financier, mais si jamais demain, la CPAM dit ne plus garder ses services à Pontivy,
ça ne changera rien. Là, ça ne changera absolument rien. Sur les services, la question a été posée au tout début, même avant. Alors, la réponse est que on maintiendra quelque chose à Pontivy, mais on ne me répond pas que ce sont les services tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je suis bien consciente que si le choix est de rester 18 mois dans les locaux, c'est qu'il y a probablement un projet de restructuration et de fonctionnement autre pour la suite. Mais cela dit, que le bâtiment soit acheté ou pas, ça ne changera pas par rapport à cela. Nous pourrons nous opposer. Je l'ai fait aussi avec les services des impôts, avec le directeur. J'ai rencontré à deux reprises le directeur départemental des finances publiques parce que certains services quittaient Pothivy. Je crois que j'ai eu l'occasion de vous dire, à chaque fois on m'oppose le numérique, mais le numérique pourrait faire en sorte que ces services restent implantés à Pothivy, et que pourquoi Pothivy n'aurait pas justement certains services départementaux aussi. Mais pour autant, nous n'arrivons pas à contrer justement cette fuite vers les villes principales. Alors, je n'ai pas la réponse, sinon celle que je vous donne, qui m'a été donnée, nous maintiendrons quelque chose à Pontivy. Mais c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que recouvre ce quelque chose aujourd'hui. Oui, monsieur Dupont.
Oui, parce qu'au final, si la caisse première de l'assurance maladie envisage de déplacer ses services,
ils auront fait une bonne affaire quand même. Ils auront vendu pour un prix important, hein, 531 000 euros, un bâtiment qu'ils n'auraient vendu pas eu la possibilité de vendre autrement. Et moi, ma crainte, à titre personnel, concerne moins la confiance qu'on peut avoir dans le projet médical et le projet de cet investisseur qui a fait ses preuves par ailleurs sur d'autres réalisations, hein, que sur la Sécu. Je me demande si la Sécu n'a pas un double langage dans cette affaire et si derrière le flou, il n'y a pas un loup de leur part. C'est pour ça qu'il faut le dire, et pour dire aussi qu'on est vigilant, parce que peut-être aurait-il pu aussi, dans cet acte de vente, enfin cette promesse de vente, entre eux et nous, d'exprimer un certain nombre d'exigences quant au maintien des services. On peut tout écrire dans un acte de vente.
C'est repartir sur des tractations qui sont pour le moins longues. Ça fait un an qu'on est sur ce dossier. C'est oui, deux ans, mais sur le problème avec la CPAM, c'est depuis décembre.
De plus, qui quitte la ville, on saura rappeler ces interventions.
Je rappelle quand même que la CPAM avait déjà à l'époque l'intention de vendre ce bâtiment. Nous, on s'est substitué puisque finalement c'était un lieu qui nous convenait bien. Et puis finalement, c'est justement. Pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'aussi, on pensait qu'on allait les fixer sur Pontivy. Après, la CPAM, moi, je suis pas, on n'est pas maître des décisions de la CPAM.
Oui, je remarquais sur le prix de vente. C'est 531 000 que nous l'achetons, mais l'estimation des domaines, c'est 590 000. Donc, c'est la différence correspond en gros, à ces 18 mois d'exploitation et de maintien dans le local.
À titre gratuit.
Oui, mais le prix des domaines a été diminué de 60 et quelques mille euros, qui correspondent en gros à ce temps d'occupation. Voilà, oui. Voilà. Puisque l'estimation des domaines est de 590 000.
D'accord. Autre question, le montant du loyer, car il est bien prévu un loyer de 3 100 euros.
Alors, c'est à l'issue des 18 mois, si toutefois il restait dans les locaux, puisque nous avions accepté, puisque le prix, si vous voulez, de 590 000 avait eu une réfaction compte tenu donc de cette occupation dite gratuite, mais qui quelque part est répercutée quand même sur le prix de vente. Mais c'était une exigence de la ville, puisque dans le premier projet d'acte que nous avons eu, elle n'existait pas. C'était qu'à l'issue de ces 18 mois, un loyer soit perçu. Si la CPAM
Et le montant de ce loyer était défini sur la base d'une évaluation des domaines?
Non.
Parce que normalement, on doit le faire aussi.
Oui, alors là, ça a été
Il aurait fallu avoir deux évaluations, c'est-à-dire une pour le terrain et une pour l'immeuble.
Oui, mais l'immeuble est évalué, monsieur Lorsi.
L'immeuble est évalué dans sa globalité sur une assise foncière.
Dans cet acte-là, mais dans l'autre acte dont on va débattre tout à l'heure, les valeurs sont identifiées.
Ouais, je vous rappelle que dans l'autre.
C'est-à-dire que le bâtiment historique est évalué, sauf erreur de ma part, à 350 000 euros. Quoi, hein. Donc c'est un loyer de 3 100 euros. Pour un bâtiment dont la valeur est de 350 000.
Je vous rappelle qu'on ne sera plus propriétaire de ce bâtiment. Donc finalement, c'est un problème entre la CPAM et le propriétaire des bâtiments.
On ne sera plus propriétaire si. Je rappelle qu'un compromis de vente engage le promettant. On est d'accord là-dessus. Donc on ne sera plus propriétaire si dans l'autre acte que nous allons voir tout à l'heure. Le dispositif va jusqu'au bout.
Non, mais les deux sont quand même liés.
Bien, donc c'est... Ah oui, pardon, non, monsieur Marchand.
Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, madame la maire, quant à l'estimation de France Domaine. Donc vous avez dit que c'était estimé 590 000 et que du fait de la location et de la gratuité pendant 18 mois, donc c'était ramené à 531, mais... Du coup, la délibération, si je lis la délibération, c'est indiqué le prix d'acquisition confirmé par France Domaine dans un avis rendu le 16 octobre 2017 est fixé à 531 000. C'est pas clair.
le prix de cession est bien de 531 000 euros. Après, c'est de l'interprétation, finalement, de dire que les 18 mois, c'est une compensation.
Bah oui, mais du coup, le chiffre qui vient d'être donné par Madame la maire de 590 000 n'apparaît nulle part.
Pour l'acquisition par la ville. Mais le bâtiment, l'ensemble immobilier avait été estimé à 590 000.
Oui, mais du coup, cette estimation à 590 n'apparaît pas.
Oui, c'est vrai.
Ce qui n'aide pas déjà à la compréhension d'un dossier déjà complexe.
Dans le courrier, nous sommes partis des conditions qui étaient proposées. Que le service des domaines a confirmé à ce prix-là.
Moi, le mécanisme. Oui. C'est vrai que c'est pas aisé, du coup.
Oui, mais je suis d'accord, puisque moi-même, j'ai posé la question au directeur des services.
Parce que quand on a relu ça, nous, il y a quelques jours, on était un peu perdus, quoi, du coup. Hein. J'avais bien aussi en tête, moi, ce chiffre de 590 000 qu'on ne retrouvait plus, quoi.
Oui. Oui, monsieur Séguet.
En fait, on achète à 531 000 plus les frais de notaire, ce qui fait 538 200, mais on revend 531 000. Et pourquoi est-ce qu'on ne revendrait pas à 538 000 ? C'est le prix qu'on paye.
Parce que, en fait, c'était un petit peu le deal finalement, parce que le promoteur, je rappelle que lui, il va payer par contre les droits de mutation sur la totalité du prix. En fait, on est un intermédiaire. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec M. Urban. Un, on va prendre en charge effectivement le coût financier, c'est pas négligeable. Et deux, on va prendre effectivement en charge également les frais d'acte qui sont effectivement d'un peu plus de 7000 euros, je ne me rappelle plus exactement du montant. Ouais. Et c'est finalement la participation de la ville à ce que l'opération se fasse. Hein, alors qu'initialement, on pensait que c'était une opération totalement blanche. Maintenant, je rappelle aussi que sur des cabinets qui peuvent se faire ultérieurement menés par effectivement les collectivités, quand on voit le reste à charge à la collectivité, il n'y a pas photo.
C'est évident.
D'accord ?
C'est évident.
Alors, effectivement, dans le futur, on n'en parle pas aujourd'hui, mais finalement, je peux aussi vous livrer l'information, parce que, on en débattra, mais aujourd'hui, donc, on a un certain nombre de médecins généralistes. Là, je parle des généralistes particulièrement, je ne parle pas des spécialistes qui se sont inscrits sur ce pôle. Mais les médecins généralistes, on a prévu finalement de pouvoir en accueillir 10, c'est-à-dire qu'on aurait, dans les discussions, on réserverait finalement un cabinet sur une dizaine de cabinets pour nos généralistes. Aujourd'hui, on aurait 5-6 généralistes qui viennent sur ce pôle. Reste en fait 4 places, enfin, peut-être même que 2, puisque certains prendraient peut-être 2 bureaux, sur lesquels il n'y a pour l'instant pas de praticiens. Donc l'idée, ce serait quand même de pouvoir conserver ces bureaux ou ces cabinets, je ne sais pas comment les appeler, de façon à ce que demain, un jeune médecin ou deux jeunes autres médecins ou trois puissent s'approprier, effectivement, arriver sur Pontivy. Donc l'idée, alors, le problème, c'est qu'avec les médecins, aujourd'hui, vous savez bien qu'on leur fait des ponts en or un petit peu partout. L'idée, c'était quand même de leur dire, sur ces 3 bureaux, par exemple, qui restent vides, que nous, villes, on puisse peut-être, en attente de l'arrivée de nouveaux médecins, prendre ça à notre charge.
Non, non, ça ferait l'objet d'une autre délibération à venir après.
Parce que les risques de cet ordre, c'est le promoteur qui doit les prendre. C'est lui qui a défini sa surface, non ? De construction, neuve.
Effectivement, le promoteur, c'est important. Lui, il a défini effectivement les surfaces qui seront affectées, donc notamment dans l'organisation, même si ce n'est pas figé aujourd'hui. Ça a quand même bien avancé. Et effectivement, nous, on souhaitait qu'on puisse recevoir demain 2 nouveaux médecins. Parce que déjà, on sait très bien qu'avec les médecins que l'on a aujourd'hui, plus ceux qui sont amenés peut-être à partir en retraite et ceux qui ne s'inscrivent pas sur ce lieu, bah, qu'on puisse accueillir demain des jeunes médecins. Et on sait qu'on sera attractif. On sera attractif. On sera attractif parce qu'on aura un bien finalement qui sera adapté à ce qu'ils souhaitent avoir aujourd'hui. Quoi. Et voyez ce qui se fait aux alentours de Pontivy. Hein, sur d'autres communes extérieures où déjà des pôles ont été construits et comment ça se passe
Et jusqu'à quelle hauteur peuvent participer les municipalités, hein?
Bien. Oui, Eric.
Du coup, est-ce que vous avez fait le total de toute la participation de la ville? Si on compte les frais de notaire, l'argent immobilisé, plus les participations précédentes qu'on avait vues avec les histoires de stationnement, tout ça. On arrive à est-ce qu'on a fait un bilan?
Sur les stationnements, on n'a rien déboursé, hein.
Oui, oui.
Non, c'est même pas un manque à gagner. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compensation, effectivement, même si on avait eu un débat, Monsieur Dupont, sur ce point. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de possibilité d'indemniser, finalement, une place de parking pour un promoteur. Donc là, on a mis, finalement, à concession, pendant une certaine durée, des places, effectivement, pour que ce projet puisse aboutir. Mais ça n'a pas un coût supplémentaire, finalement, pour la ville. En plus, c'est un parking gratuit, hein, donc...
Non, mais au total, est-ce que...
Au total, on peut estimer, effectivement, je pense que sur le coût financier plus, on est déjà sur à peu près 20 000 euros. Hein.
Oui, minimum, mais il y a un risque aussi, c'est entre la transaction, au moment où on débourse, nous, ville de Pontivy, et au moment où on va se faire rembourser. Quoi. Parce qu'il peut se passer un certain nombre d'événements en cours de route qui peuvent aussi remettre en cause les choses, et c'est toujours le risque existe toujours quand même, il faut l'ajouter au 20 ou 25.
Oui, il y a la part de risque, c'est sûr, mais c'est le choix. 590 000, voilà. Donc voilà, Roland me remet l'estimation des domaines, puisque nous avons dû la redemander, même si elle avait été faite en début d'année. Pour le promoteur, donc nous l'avons redemandé, nous l'avons eu le 16 octobre, donc l'évaluation de ce bien réalisée par le service du domaine, le 7 mars 2017 d'un montant de 590 000 euros avec une marge, était toujours d'actualité. Voilà ce que nous répondait le service des domaines le 16 octobre. Puisque vous savez que lorsqu'une une évaluation est faite par le service des domaines, elle peut être soit augmentée, soit diminuée de 10%.
J'aurais été un peu indiscrète peut-être, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Permettez que je la pose quand même, monsieur Lorsi.
Je vous en prie. Oui.
Bon, je voulais simplement... savoir qui était à l'origine de la rupture des négociations entre l'assurance maladie et le promoteur.
C'est arrivé. Je vous avais déjà expliqué que c'était la réévaluation du coût qui a fait que les demandes du promoteur ont dû paraître un peu exagérées à un moment donné par la CPAM, qui n'a plus voulu discuter. Parce que le promoteur, dans un premier temps, a remis en cause cette nouvelle estimation. Je vous rappelle que le projet économique n'était pas celui-là au départ. Donc, la donne changeait. Donc, il a demandé un certain nombre d'aménagements. Il a demandé justement aussi cette possibilité de ne payer aussi qu'à l'issue des 18 mois. Et puis, il a essuyé beaucoup de refus. Nous étions dans une situation qui n'avançait plus, une situation de blocage. Donc, je crois que je vous avais dit que nous avons fait une réunion un petit peu avec toutes les parties de mise au point. Et lorsque nous voyons que finalement, on était arrivé un petit peu dans une impasse, c'est là où j'ai proposé que la ville... J'ai demandé à CPAM, si la ville se porte acquéreur, est-ce que vous acceptez de nous vendre le bâtiment? La CPAM a répondu oui. Donc, puisque sinon nous partions sur des délais encore plus longs, et c'est un projet qui est important, qui est urgent pour pouvoir recevoir de nouveaux médecins pour nous, puisque l'offre est insuffisante sur Pontivy aujourd'hui, hein, l'offre médicale. Et il en est, je vous disais que nous avons une pression de la part de ces médecins à chaque fois qu'ils voient qu'il y a un élément qui retarde encore ce projet. Bien, je vous propose la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors, vous aviez aussi donc le projet d'acte. Donc la seconde délibération, donc qui reprend l'historique. Donc je n'en fais pas une deuxième fois la lecture. Donc l'acquisition vient d'être soumise au conseil municipal. Le site, je l'ai décrit. Donc le prix de vente confirmé par France Domaine, donc 531 000. Cette vente est notamment assortie d'une condition de maintien dans les lieux, donc à titre gratuit au bénéfice de la CPAM pour une durée de 18 mois, impliquant un paiement différé du prix à la ville pour une durée équivalente. Elle est également assortie d'une stipulation de pénalité de 50 000 euros et d'une obligation de produire une garantie bancaire. Donc nous vous proposons d'émettre un avis favorable au projet d'acte qui était aussi annexé et puis d'autoriser à le signer ainsi que tous actes se rapportant à ce dossier sous réserve de production d'une garantie bancaire par l'acquéreur.
Je voyais juste une petite question sur la notion de 50 000 euros. Là, je n'ai pas trop bien compris à quoi ça correspondait.
Alors, c'est...
Ça a été en cas de quoi ?
Une pénalité. Qui paiera cette pénalité ? Oui.
L'acquéreur.
C'est pas ce qui est écrit dans l'acte, monsieur. Elle est sur la page 60.
Non, mais je veux bien, effectivement, le promettant et le bénéficiaire, effectivement, de toute façon.
Non, il y a une erreur, là.
Si.
On relit le texte. Non, on relit le texte, monsieur. Le promettant, c'est qui ? C'est la ville. Attendez.
Oui, le promettant, en l'espèce, c'est la ville.
Là, on lit, au cas où le promettant ne régularisera pas l'acte authentique, il devra verser au bénéficiaire la somme de 50 000 euros.
Ah oui, il y a une erreur, effectivement.
Quels sont les gens qui ont travaillé sur cet acte ? Mais là, on impute à la ville une pénalité qui, normalement, devrait relever de la société. Et il faut pénaliser les notaires pour faire des actes comme ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a une erreur. Oui. Et quand vous le dites, je crois l'avoir signalé. Ah.
Ben non, mais on ne peut pas laisser passer, c'est quand même extrêmement important.
Oui, c'est le bénéficiaire qui est redevable de cette somme de 50 000. D'ailleurs, une somme était mentionnée aussi dans la première promesse de vente dans l'autre centre.
Pardon ? Non, ce n'est pas dans les deux sens. C'est dans un seul... Non.
Ça peut aller dans les deux sens sur un compromis de vente.
Oui, mais pas dans cette espèce. Là. Parce que là, dans cette espèce-là, c'est uniquement la ville qui devrait payer.
Si elle serait
hein ? Mais non. Mais
ça peut aller dans les deux sens.
Oui. Non. Je pense qu'on est dans le deuxième acte. C'est là le promettant. C'est donc...
C'est la mairie. C'est le
promoteur immobilier vis-à-vis...
Non. Le promettant, c'est la même.
Oui, mais il y a deux actes.
Mais dans le deuxième acte.
Non. Dans le deuxième acte, le promettant, c'est la ville de Pothivy. Il suffit de regarder au début de l'acte. Et le bénéficiaire est la société dénommée Pôle Médical.
Et c'est là le promettant qui devrait verser au bénéficiaire la pénalité. C'est ce qui est écrit. Donc la ville devrait verser au bénéficiaire 50 000 euros et pas l'inverse.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la page, monsieur Dupont ?
Non, moi je suis la page 72.
Oui, voilà.
Bah, c'est marqué que c'est la ville qui paierait, ça veut dire ça.
Alors que ce n'est pas la même chose à la page 6.
Et puis c'est en contradiction par rapport à la caution bancaire. Parce qu'ensuite, il est indiqué que cette caution bancaire visant à garantir le paiement à terme du prix de vente... ou, le cas échéant, le paiement de la pénalité stipulée ci-dessus. Ce qui veut bien dire que la pénalité ci-dessus devrait être payée par la société immobilière, puisqu'on demande une garantie bancaire. Donc, l'acte précédent sur la stipulation de pénalité est erroné.
Oui, d'accord. Ok. C'est l'inverse de ce qui est prévu.
C'est l'inverse.
Enfin,
ben, je suis retraité. Donc oui, donc c'est à noter pour régulariser.
Mais c'est important parce que c'est quand même une promesse unilatérale de vente. Donc effectivement, ce qui est à noter est quand même important puisque effectivement derrière, on ne peut pas avoir de recours.
Bien sûr.
Ouais.
Ça veut dire que c'est un document qui devrait être...
modifié.
Qui devrait être modifié, parce que là, c'est quand même fait par un notaire. Donc,
Non, ils se sont mis à deux. Ah non, il y a...
Notaire.
C'est la promesse. C'est la, non, c'est la promesse de vente, mais il faut que la promesse de vente soit exacte quand même.
Encore fallait-il le voir, Madame Perrault.
Dans un dossier présenté au Conseil municipal pour un vote, c'est quand même important.
Oui, c'est important. Vous avez raison.
Merci, Monsieur Dupont, parce que je vous cache pas que je l'ai relu deux ou trois fois et ça m'a pas sauté aux yeux.
Si, moi, je l'avais signalé un montant, mais Je n'ai pas relu celui qui a été transmis au conseil municipal et donc ça n'avait pas été modifié, effectivement.
Le paragraphe au-dessus prévoit l'inverse.
Oui, c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien le promettant. Effectivement, c'est pas au promettant de payer les 50 000. Effectivement.
Non, mais le paragraphe juste au-dessus explique que si la ville se rétracte, le bénéficiaire se rétracte, il doit payer 50 000 euros. Et ça serait logique qu'il y ait un autre paragraphe qui dise que si la ville se rétracte, elle doit payer 50 000 euros.
Je vous rappelle quand même que quand on signe un acte, a priori, hein, on est d'accord tous les deux. Hein. On est d'accord tous les deux. Donc si nous, on vend, l'acte étant signé, on est d'accord si les conditions demandées sont respectées. Il n'y a aucune raison qu'on dise finalement on ne veut pas vendre. Maintenant, je suis d'accord sur pourquoi changer. Ça ne dit pas qu'il ne faille pas changer la.
Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours le risque que cette société immobilière nous fasse un bras d'honneur. Hein.
Oui, mais avec une garantie bancaire, on a quand même quelqu'un
D'où l'intérêt d'avoir une pénalité au moins clairement
indiquée. Oui, absolument. Parce que absolument. Et pénalité et garantie bancaire.
C'est un bras d'honneur qui leur coûtera 50 000 euros. Alors que là, s'ils nous font un bras d'honneur, c'est la ville qui devrait leur donner quasiment.
Oui,
c'est quand même le comble.
Moi, je suis pas sûr que ce soit faux, en fait.
Bien, donc je vous soumets cette deuxième délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et nous en venons donc aux décisions. J'arrive plus à avoir mon acte. Voilà. Décidément. Bon, sur les décisions donc prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dont vu l'article précité, vu la délibération du Conseil municipal du 17 avril 2014 confiant à la maire certaines compétences du Conseil, vu les arrêtés de la maire en date du 23 avril 2014 donnant délégation aux adjoints, considérant que les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 doivent faire l'objet d'un rapport au Conseil municipal. Donc nous vous proposons de prendre acte des délibérations prises entre le 22 septembre 2017 et le 26 octobre 2017, soit les décisions numérotées DC 2017-16 à DC 2017-20, selon le tableau qui était annexé à la délibération que vous avez. Avez-vous des questions là-dessus ? Donc, je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Donc, la délibération est adoptée. Et je vous remercie. Eh bien, nous en avons terminé de cet ordre du jour. Le prochain conseil municipal sera donc le 11 décembre. Et les deux suivants, donc le 22 janvier pour le débat d'orientation budgétaire et le 19 février pour le vote des budgets. Donc, je vais vous transmettre à signer la... Ne partez pas avant d'avoir signé le feuillet de clôture de séance. Vous rappelez le 29 novembre le repas des aînés pour le CCAS. Le 1er décembre, à 20h, le lancement des illuminations. Et puis le marché de Noël, mais nous y reviendrons puisque nous aurons un conseil municipal entre-temps, 15, 16, 17 décembre, et les vœux du maire, donc le 12 janvier. Voilà pour les informations que je pouvais vous rappeler ce soir. Et je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne fin de soirée. Thank you.